VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 14h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Crise au Burundi, les ambassadeurs des pays du Conseil de sécurité de l'ONU accueillis au Burundi par une nuit de violence à Bujumbura, la capitale, vont tenter aujourd'hui de convaincre le président burundais Pierre Nkurunziza d'autoriser le déploiement d'une force africaine auquel il s'oppose fermement et de reprendre aussi les discussions avec ses opposants. Une rencontre avec le chef de l'État est prévue en début d'après-midi à Gitega, à une centaine de kilomètres à l'est de Bujumbura. Les 15 diplomates ont auparavant rencontré dans la matinée à Bujumbura le ministre burundais des Affaires étrangères Alain Nyamitwe et le vice-président Gaston Sindimro, puis des représentants de la société civile dont les principaux acteurs sont d'ailleurs en exil. C'est leur deuxième visite en moins d'un an au Burundi, plongé dans une grave crise depuis l'annonce fin avril 2015 de la candidature du président Nkurunziza à un troisième mandat controversé. Signe de l'inquiétude internationale concernant une nouvelle spirale incontrôlable dans ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs, à l'histoire post-coloniale jalonnée de massacres entre la majorité Hutu et la minorité Tutsi. Alors que le pouvoir burundais persiste à affirmer que la paix règne au Burundi, les rebelles des forces républicaines du Burundi, les Forebu, ont revendiqué une série d'attaques contre la police au cours de la nuit dernière à Bujumbura. Aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais un cadre des Forebu a déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat que les attaques de la nuit passée étaient destinées à montrer au Conseil de sécurité que le Burundi est déjà dans la guerre. Au Burkina Faso, un dépôt d'armes et munitions de l'armée burkinabé près de Ouagadougou a été attaqué aujourd'hui, selon l'armée dans un communiqué. Aux environs de 3h du matin, heure locale et temps universel, une tentative d'incursion n'ayant fait aucune victime a eu lieu au niveau d'un magasin d'armement à Yimdi, à 20 km à l'ouest de Ouagadougou, indique un communiqué militaire qui ajoute que les auteurs de cette tentative ont été identifiés comme des éléments récalcitrants de l'ex-RSP, l'unité auteur du putsch raté de septembre dernier. Les autorités burkinabées soulignent que les assaillants ont pu s'emparer d'armes et de munitions avant de prendre le large. En Guinée-Bissau, les députés du principal parti d'opposition et ceux exclus du PAIGC, la formation au pouvoir, se sont réunis hier au Parlement malgré la suspension des travaux par le président de l'Assemblée. Le pays s'enfonce dans une nouvelle crise, John Lindon.
La séance a démarré à huis clos sur ordre du président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kazama. 41 députés du Parti de la Rénovation sociale, la formation d'opposition et 15 dissidents du PAIGC étaient présents. Ces 15 députés ont été exclus du parti au pouvoir pour s'être abstenus lors du vote sur la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre Carlos Carrera. Une nouvelle séance lundi a failli tourner à la foire d'empoigne. Depuis hier, le pays a de fait deux parlements et un gouvernement. La veille, l'ex-premier ministre Domingos Simões Pereira, limogé en août 2015 par le chef de l'État José Mário Vaz, a dénoncé un coup d'État orchestré à partir de la présidence. Il avait appelé les militants à s'éteindre prêts à défendre la victoire conquise par les urnes. L'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne, très inquiètes, appellent au dialogue dans ce pays instable qui a déjà connu plusieurs coups d'État.
À Madagascar, le parti du président malgache Eri Rajao Narimanpianin, le HVM, a remporté une large victoire aux élections sénatoriales du mois dernier, selon les résultats officiels définitifs rendus publics par la Haute Cour constitutionnelle. Le HVM a remporté au moins 4 sièges sur 7 dans chaque province du pays, confirmant les prévisions des observateurs qui s'attendaient à une écrasante victoire du parti du chef de l'État. Outre ces 42 élus, 21 sénateurs seront désignés directement par le président, conformément à la Constitution. Somalie maintenant, l'attaque contre un restaurant du front de mer de la capitale Mogadiscio, hier, a fait au moins 19 morts. C'est ce que révèle le tout dernier bilan fourni par la police aujourd'hui. Rappelons qu'après une violente explosion, des hommes armés ont fait irruption dans le restaurant alors que des clients étaient attablés. Les rebelles somaliens Shebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque dans laquelle 4 de leurs militants ont été tués et un 5e capturé. Et puis en Tunisie, 16 personnes ont été interpellées dans la nuit à la suite de saccages et pillages dans un quartier populaire du Grand Tunis. Ça se passe dans le cadre de la contestation sociale en cours dans le pays. La Tunisie a réussi sa transition politique après la révolution du printemps arabe, mais les disparités économiques persistent, suscitant des remous qui menacent la stabilité du pays. Le géographe tunisien Habib Ayeb dénonce la gestion du président Béji Caïd Essebsi.
Il est là depuis un an, tout ce qu'il fait, c'est exactement le contraire. Tous les gouvernements qui ont pris le pouvoir depuis 2011, ils font absolument le pouvoir. Ils vont même jusqu'à prétendre qu'il n'y a pas des problèmes sociaux. Toute l'économie est orientée vers un libéralisme sauvage que même Ben Ali n'a pas osé adopter. Il n'y a aucune indication dans la politique du gouvernement qu'on est à la recherche d'un nouveau modèle. Et le fait même quand le premier ministre tunisien participe à Davos, franchement, ça n'indique pas une recherche d'un nouveau modèle. Ça indique une soumission totale à un libéralisme, au modèle libéral, mais dans sa version la plus sauvage.
Habib Ayeb, géographe tunisien.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Actualité américaine, les États-Unis ont commencé hier à appliquer les nouvelles règles plus contraignantes concernant les exemptions de visa pour les personnes qui ont séjourné en Iran, en Irak, en Syrie et au Soudan. Eric Manirakiza.
Le département de la sécurité intérieure a décidé que les visiteurs souhaitant venir aux États-Unis et qui ont séjourné en Iran, Irak, Soudan ou en Syrie depuis 2011 auront à présent besoin d'un visa. Les personnes qui ont la double nationalité iranienne, irakienne, soudanaise ou syrienne devront aussi solliciter un visa. Cette contrainte administrative devient obligatoire, même si ces personnes viennent de la quarantaine de pays exemptés de visa. Ces nouvelles mesures ont été décidées dans la foulée des attentats de Paris en novembre dernier et de San Bernardino début décembre. La loi votée par le Congrès a été signée par le président Barack Obama. Environ 20 millions de personnes viennent aux États-Unis chaque année sans visa pour des séjours d'au moins de 90 jours, dont quelques 13 millions d'Européens qui doivent remplir en ligne le formulaire ESTA.
Et puis les parlementaires républicains au Congrès font pression pour l'adoption de sanctions encore plus dures américaines contre Téhéran. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Pendant que les sénateurs se dépêchent de quitter Washington avant la grande tempête de neige que l'on prédit pour la région cette fin de semaine, plusieurs républicains ont parlé de l'Iran. Parmi eux, la sénatrice Kelly Ayotte.
Nous devons tenir tête à ce régime iranien. Leurs tests illégaux de missiles balistiques et leur soutien continu à la prise d'otages. Nous allons imposer des sanctions plus dures.
De son côté, le sénateur John McCain, l'adversaire républicain de M. Obama en 2008, a accusé le président d'être tellement attaché à l'accord sur le nucléaire iranien qu'il a fermé les yeux sur les provocations de l'Iran.
Ce président et ce secrétaire d'État font tout pour plaire aux Iraniens. Peu importe ce que ces derniers font, peu importe l'offense qu'ils vont subir, M. Obama et Kerry ne feront absolument rien. Ce sera donc au Congrès d'agir.
Les parlementaires républicains n'ont pas précisé les mesures punitives qu'ils envisageaient à l'encontre de l'Iran. Mais on se rappelle que dimanche dernier, le président Barack Obama a salué la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien signé l'an dernier avec Téhéran par les États-Unis et leurs partenaires du P5+1.
Au terme de cet accord sur le nucléaire que nos alliés, partenaires et nous-mêmes avons conclu l'an dernier, l'Iran ne mettra pas la main sur une bombe nucléaire. Nous sommes parvenus à ce progrès historique grâce à la diplomatie sans recourir à une autre guerre au Moyen-Orient.
En tout état de cause, pour l'adoption de sanctions, toute proposition de loi des républicains devra bénéficier du soutien d'un certain nombre de sénateurs démocrates pour être approuvée. Or, l'an dernier, le rejet de l'accord sur le nucléaire a été bloqué au Sénat quand la minorité démocrate a empêché les républicains d'obtenir la majorité des deux tiers requises.
Et pour terminer, la Birmanie a libéré aujourd'hui une centaine de personnes, dont au moins 34 prisonniers politiques. C'est ce qu'annoncent les autorités et aussi des associations de défense des droits humains. À quelques jours d'une transition politique historique avec l'arrivée au pouvoir du parti de leader d'opposition Aung San Suu Kyi. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.